va parler maintenant des marchandises, on pourrait reprendre l'image du château fort, parce que aujourd'hui, ça nous paraît relativement normal que les frontières soient assez ouvertes au mouvement de marchandises. Au Moyen-Âge, ce n'était pas le château fort, mais c'était la ville. À l'entrée de la ville, il y avait des murs, et à l'entrée de la ville, il y avait un octroi, ce qui était un droit de douane. C'était au niveau de la ville. Maintenant, on est passé ensuite au niveau du pays, et puis dans un certain nombre de cas, les droits de douane ont totalement disparu à l'échelle mondiale. Il est question d'en remettre, il est question d'en réinstaurer. Et avant même que ça soit réinstauré, on voit qu'on a une rupture dans les échanges mondiaux. Et donc, on va poser la question à Sébastien Jean, qui est donc directeur du CEPI, qui est un spécialiste du commerce international, qui a beaucoup travaillé de différentes manières sur cette question, avec des grosses bases de données, etc. Il a travaillé à l'OCDE. Donc, Sébastien, est-ce qu'on est à un moment de rupture dans la mondialisation des échanges, celle des échanges de marchandises? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient l'inflexion très forte qu'on a vue ces dernières années?
Merci, oui, bonsoir à tous. Rupture, c'est un bon terme, effectivement. C'est-à-dire que, autant je vais expliquer pourquoi je n'achète pas le terme de démondialisation, je ne crois pas qu'on soit face à une démondialisation. En revanche, nous sommes dans une période de rupture, et une rupture très forte, une rupture d'ampleur historique, à mon avis. Pourquoi ça? Il y a plusieurs façons de l'exprimer ou de le résumer. D'un mot, dans les 15 années qui ont précédé la crise économique et financière de 2008-2009, le commerce international avait augmenté à un rythme de 2 fois plus rapide que celui de la richesse mondiale. Dans les 6 années, disons, il y a eu, hein, je ne compte pas la période de crise parce que c'est difficile d'y voir clair, c'est un gros nuage de fumée, en gros, dans les statistiques. Depuis que la poussière est retombée, qu'on y voit un peu clair sur les tendances, on constate que le commerce mondial ne croît plus que au même rythme que la richesse mondiale, voire un peu plus lentement. Hein. Par exemple, des chiffres frappants, hein, quelle a été la croissance des importations chinoises en volume, hein, je ne dis même pas parce que les prix industriels ont tendance à baisser, croissance des importations chinoises en volume depuis 2 ans, enfin, si je mets de côté les toutes dernières statistiques qui montrent que ça remonte un peu, eh bien, ce n'est pas une croissance, c'est une décroissance. En 2 ans, entre fin 2014 et fin 2016, les importations chinoises en volume ont baissé de 10%. Si bien que fin 2016, elles étaient inférieures à leur niveau de fin 2012. Les exportations, elles, en 2 ans, elles ont stagné en volume également. Donc, c'est vraiment une rupture par rapport à la période qu'on a connue avant crise. Pourquoi je dis que, pour autant, ça n'est pas une démondialisation? Parce que si on prend... Si on essaie de prendre du recul, ce qui est vraiment exceptionnel, ça n'est pas ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, c'est ce qui s'est passé dans les 15 années qui ont précédé la crise. C'est-à-dire une phase à l'échelle historique qui est sans précédent d'accroissement des interactions économiques internationales. Donc, ça peut se résumer de différentes façons en termes d'intensité du commerce international. Un chiffre facile, même si pour différentes raisons il est très imparfait, c'est ce que représentent les exportations mondiales en pourcentage du produit intérieur brut mondial, de la somme des valeurs ajoutées au niveau mondial. Début des années 90, c'était un peu moins de 20%, hein, de l'ordre de 18% du PIB mondial. En 2008, c'était 30%. Donc on a eu un doublement pour un ratio qui a une proportion qui n'a pas vocation, a priori, dans le long terme, à être orienté ni à la baisse ni à la hausse. Donc c'est vraiment un changement de monde. Et pour faire court, je dis juste d'un mot, à mon avis, à quoi c'est dû. C'est dû essentiellement à 3 types de facteurs qui sont géopolitiques et technologiques d'abord et institutionnels ensuite dans une moindre mesure. Géopolitique parce que ça a été l'ouverture de la Chine, la chute du mur, donc l'ouverture aussi des pays ex-communistes et une pacification, disons, des relations internationales, ce qu'on pourrait appeler une Pax Americana, premier point. Deuxième point, évidemment, la technologie, les technologies de l'information et de la communication, cette facilité qui était impensable il y a 30 ans qu'on a aujourd'hui, de se coordonner entre 2 équipes de travail d'un bout à l'autre du monde, en temps réel et quasiment sans obstacle, et d'ailleurs quasiment sans coût. Et puis le dernier point, mais j'insiste, je le mets vraiment en dernier, les institutions qu'on a créées autour de ça pour accompagner le processus plus que pour le créer. c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, les nombreux traités, les accords de libre-échange, et beaucoup d'accords d'ailleurs qui encadrent les relations commerciales internationales et économiques.
Donc avec cette émergence de nouveaux pays, avec cette technologie de l'information, les entreprises se sont aussi organisées de manière complètement différente. Elles ont pu éclater leur production aux quatre coins du monde, ce qu'on a appelé les chaînes de valeur qui sont devenues de plus en plus internationales. Est-ce que là, on est aussi, est-ce qu'il y a des raisons qui font que ce mouvement-là pourrait ne pas continuer ?
Oui, effectivement, c'est les grandes questions qu'on se pose, c'est-à-dire pourquoi ce ralentissement, pourquoi cette phase que j'ai décrite, pourquoi est-ce qu'elle s'est achevée et comment ? D'abord, évidemment, il y a un ralentissement de la croissance et il y a une sorte de dynamique liée à la croissance qui était très forte, qui était en partie un moteur du commerce, mais ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a une deuxième raison importante, c'est le recentrage de la Chine. Évidemment, l'un des chocs majeurs de la période, des 20 dernières années, c'est l'ouverture de la Chine, qui est un choc économique, politique, d'une ampleur historique. Et il faut bien comprendre que dans la première partie, jusqu'au début des années 2000, la Chine s'est en particulier appuyée dans son effort de réforme et de développement sur une ouverture très forte, en particulier du côté des exportations, mais dans une certaine mesure aussi du côté des importations. Et une ouverture qui est assez pathologique, c'est-à-dire que la Chine, en 2006, avait des importations qui, proportionnellement à son PIB, étaient trois fois plus importantes que celles des États-Unis. 36% des importations égales à 36% du PIB de son PIB, ce pourcentage a nettement diminué depuis, il a baissé de 10 points. Donc, premier point, la Chine s'est repliée sur elle-même. Deuxième point, effectivement, on arrive à la question, est-ce que ces chaînes de valeur mondiales que tu décrivais, Jean-Marc, est-ce qu'elles se replient, est-ce qu'elles reviennent en arrière ? Moi, je dirais plutôt que le déploiement, cette espèce d'explosion des processus productifs avec des entreprises qui choisissent finalement une spécialisation très poussée, l'archétype, l'illustration, l'image d'Épinal de ces chaînes de valeur mondiales, c'est évidemment l'iPhone. Ça a été rabâché dans toutes les cours de management et où on voit effectivement qu'on arrive à un produit d'une sophistication extraordinaire, mais comment est-ce qu'on y arrive ? Avec l'assemblage d'une masse incroyable de petits composants dont chacun ont été produits chez les plus performants dans le monde. Donc, ça veut dire que l'écran tactile est produit au Japon, mais l'optique, elle est produite en Allemagne, comme le positionnement GPS, la mémoire, elle va être produite aux États-Unis, le processeur en Corée, etc. Et donc, ça a été un processus d'éclatement très, très poussé qui s'est traduit aussi par des investissements directs à l'étranger qui ont explosé eux aussi. Aujourd'hui, les multinationales ne sont pas en train de rentrer chez elles. Ces usines, partout dans le monde, elles continuent à exister. Simplement, les gains d'efficacité qui pouvaient en être tirés, disons, les principaux gains, sont déjà là.
On est au bout de cette logique.
On est au bout de cette
Sans
logique.
Doute, assez voilà. Largement.
C'est un peu ça. On ne revient pas en arrière, mais ce déploiement, d'une certaine façon, est arrivé un peu à son terme.
Alors, on n'a pas parlé là jusqu'à présent des politiques qui sont adoptées. En même temps, il y a un dispositif universitaire d'observation en Suisse qui s'appelle le Global Trade Alert, qui a distingué depuis 2008, je crois, plus de 5000 coups de canif d'une manière ou d'une autre portés par les pays au commerce international. Est-ce que ça a joué sur le ralentissement du commerce ou est-ce que ça pourrait jouer ? Comment s'écrit la dynamique entre ces mouvements économiques qui viennent des entreprises et ces choix politiques ?
Alors c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits pour en particulier mesurer l'évolution des mesures protectionnistes dans le monde. Si je veux, faire un tableau à grands traits, pour moi, la leçon depuis la crise, c'est qu'il y a eu relativement peu de nouvelles mesures protectionnistes au niveau mondial et absolument rien de comparable par rapport aux années 30. Et vraiment, le point de référence historique, c'est celui-là. Et je pense qu'on peut faire crédit à nos gouvernements, à la plupart des gouvernements des grands pays dans le monde, d'avoir retenu cette leçon des années 30, à savoir que si on commençait à empiler les mesures protectionnistes, on allait avoir une escalade des représailles et qu'à la fin, tout le monde serait perdant, du moins jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, comme vous le disiez, il y a 5000 nouvelles. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. On fait des comptes, on voit qu'il y en a. Mais évidemment, le monde est grand, les politiques sont complexes, donc on en compte beaucoup. Moi, personnellement, j'ai regardé les choses en détail et je ne sais pas dire que... Enfin, je pense pas... Je n'ai pas établi de causalité entre ce mouvement et le ralentissement du commerce. Ça ne représente que quelques pourcents du commerce mondial qui est touché par ça. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, quand on voit les déclarations et la rhétorique protectionniste de Donald Trump, l'espèce d'agressivité dont est chargé maintenant, dont sont chargées les relations commerciales internationales, ça ne peut que laisser un peu inquiet ou perplexe sur ce qui va se passer dans les années à venir. Voilà, jusqu'ici, il y a eu une certaine retenue. Après, la question est vraiment posée et je pense que c'est lié aussi à une dynamique politique par rapport à l'ouverture économique et commerciale. Je veux dire par là que si on essaie de se projeter une quinzaine d'années en arrière, la Chine, dans les débats publics, c'était avant tout le synonyme de la croissance. On disait à nos entreprises, il faut aller vous développer sur les marchés émergents en Chine, c'est là qu'est la croissance, c'est là qu'est l'avenir. Et de fait, il y avait un mouvement extraordinaire de croissance. Et de fait, les entreprises, alors plus ou moins bien selon les pays, les Allemands ont mieux fait que nous de ce point de vue-là, ont essayé de se projeter et ont beaucoup cru d'ailleurs grâce à ça. Donc, il y avait des coûts d'ajustement importants et je pense qu'on va y revenir. Et c'est évidemment, ça a été un choc aussi, cette phase. Ça a été un choc structurel sur nos économies violent. Et justement, quand on prend du recul et qu'on voit la soudaineté de cette marche un peu qui a été franchie dans l'ouverture économique au niveau mondial, on comprend que c'était un choc violent. Voilà. Mais simplement, c'était porté par une croissance. Ensuite, quand reste, disons, le choc ou le choc structurel, enfin la difficulté à s'ajuster, mais que la croissance n'est plus là, eh bien, ça casse la dynamique politique et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et je pense que c'est une partie de ce qui explique cette crispation qu'on a maintenant, dont Donald Trump est l'illustration la plus flagrante.
Donc, on a une rupture économique, on va peut-être avoir une rupture politique. En même temps qu'on regarde l'histoire depuis deux siècles, c'est un débat qu'on a depuis deux siècles avec des périodes où on a été plutôt dans un resserrement, dans une fermeture de frontières et plutôt dans des mouvements d'ouverture. Vincent, vous achetez l'idée d'une démondialisation du côté des marchandises ?
Moi, je crois que je dirais comme Sébastien que y a un risque aujourd'hui politique et on est tous effectivement, je crois, assez inquiets de ce que le président américain pourrait déclencher s'il prenait des mesures intempestives parce que ensuite c'est extrêmement difficile à contrôler. On a vu dans les années 30 effectivement que la spirale protectionniste pouvait mener très très loin dans l'horreur. Donc effectivement, on est quand même assez inquiets de mouvements un peu intempestifs de cette manière. Mais je dirais, si on sort un peu de cette période-là, on a aussi des perspectives porteuses, en quelque sorte, pour le commerce international et même le commerce classique, parce que quand même, l'Inde est encore largement en phase de transition vers un modèle de développement qui serait plus intégré dans le commerce international. L'Afrique est également dans cette phase, avec un doublement de la population africaine d'ici 2050. Donc, ce qu'on a vu du côté de la Chine, alors sous d'autres formes, à d'autres rythmes, on peut effectivement aussi imaginer que ça se passera sur le continent africain ou sous le continent indien. Et puis, je crois qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. La mondialisation prend des formes très différentes. Vous l'avez dit sur l'échange de données qui augmente de manière exponentielle. Les mouvements de personnes, on en a parlé tout à l'heure, et le nombre d'étudiants étrangers sur la planète, donc d'étudiants qui vont étudier dans un autre pays que leur pays d'origine, a doublé en 10 ans. Le tourisme mondial a également doublé en 10 ans, et on s'attend à ce qu'il... Donc il est passé de 600 millions à 1,2 milliard de touristes chaque année, et on s'attend à ce qu'il double d'ici à 2030. Donc ce sont des formes de mondialisation qui sont là pour le coup, qui n'ont pas ralenti, qui au contraire même accélèrent pour certaines d'entre elles, comme le tourisme. Il y a bien entendu tous ces effets-là, la convergence aussi des modes de vie. C'est frappant quand on regarde notamment les taux de natalité. On voit que, y compris avant que les pays convergent d'un point de vue du niveau de vie, ben, les modes de vie convergent beaucoup plus fortement. Ça passe par le fait que, à notre époque, la circulation des idées par tous les médias disponibles, bien entendu médias internet, mais aussi les séries télé ont une énorme influence de diffusion des modes de vie sur la planète, et tout ça c'est de la mondialisation en quelque sorte, c'est-à-dire en fait nous sommes dans un monde dans lequel les échanges matériels et immatériels, la circulation des idées continue à s'accélérer. Je crois que là-dessus, on ne reviendra pas en arrière, sauf à un accident géopolitique comme l'histoire qu'on a pu en connaître, qu'on ne souhaite pas, parce que bien évidemment, on connaît les conséquences désastreuses.
Donc pas une démondialisation, mais une mondialisation qui change de nature. Question des étudiants maintenant.
Oui, bonsoir, donc Morvilliers Florian, étudiant en M2 IPMC. Donc ma question va porter plutôt sur les effets qu'on avance parfois, donc les effets négatifs de la mondialisation. Donc il est mis en avant que la mondialisation détruirait des emplois, et donc qu'en est-il réellement, et que peut-on faire pour ce que l'on appelle les perdants de la mondialisation?
Je me permettrais de compléter la question, donc les économistes sont de façon générale assez favorables à l'ouverture des frontières au mouvement de marchandises. Et en même temps, il y a eu un certain nombre de travaux depuis je sais pas, 5 à 10 ans qui montrent que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a effectivement des perdants de la mondialisation, qu'on ne s'en occupe pas contrairement à ce qu'on dit. Et donc, je pense que dans l'analyse économique, on a même peut-être une appréciation qui est plus nuancée qu'elle ne l'était, Sébastien.
Oui, tout à fait d'accord avec ce préambule, c'est-à-dire que effectivement, oui, il y a des perdants de la mondialisation, et c'est un choc structurel, comme je disais tout à l'heure, et ça provoque une série de problèmes qu'il faut traiter. Et en même temps, on a souvent un discours extrêmement réducteur là-dessus et très simpliste. Alors, quelques éléments pour essayer de cadrer le débat. D'abord, il n'y a pas de lien entre le taux de chômage agrégé d'une économie et son taux d'ouverture, ni même son déficit commercial d'ailleurs. Hein. Si on regarde globalement, on n'arrive pas à faire de lien particulier. Vous avez des pays très ouverts avec taux de chômage très bas, même en l'occurrence les États-Unis qui ont le déficit commercial le plus élevé du monde ont un taux de chômage relativement faible. Et disons qu'il n'y a pas de lien direct, quelle que soit la façon dont on retourne le problème. Ensuite, la question qui se pose, et en particulier dans les pays développés, alors bon, je devrais insister aussi sur le fait que pour les pays émergents, ça a été un énorme moteur de croissance plutôt, hein, mais je pense que votre question, elle porte en particulier sur les pays développés. Et là, l'inquiétude porte plus spécifiquement sur les emplois industriels. Je fais la différence, c'est important parce que les emplois industriels, c'est une petite partie, c'est à peine plus de 10% en France et dans beaucoup de pays développés, si bien que c'est important pour une série de raisons, mais ça n'est pas une façon de résumer le taux de chômage. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les emplois industriels? Il y a eu notamment des études retentissantes sur les États-Unis relativement récemment qui ont montré que, en particulier, la montée en puissance commerciale de la Chine dans l'industrie a coûté 1 million d'emplois industriels aux États-Unis, potentiellement 2 millions si on étend aux autres secteurs. Ce qui représentait presque un quart de la baisse des emplois industriels sur 25 ans aux États-Unis. Là-dessus, en France, il y a eu des études équivalentes qui ont montré que dans la baisse des emplois industriels, semble-t-il, le commerce international compterait pour 10 à 15%. Qu'est-ce que je retiens de ça? En fait, plusieurs éléments. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand on focalise sur les emplois industriels, le déficit commercial est important. Et en fait, la raison pour laquelle ce mouvement est très fort aux États-Unis, c'est qu'il y a un déficit commercial très fort. Et c'est lié à une spécificité des États-Unis, d'une part, qu'au niveau macroéconomique, ils ont un taux d'épargne très faible, et d'autre part, que c'est de la monnaie de référence aux États-Unis, et donc tout le monde veut acheter du dollar, et finalement, ils peuvent vivre à crédit, mais quand on vit à crédit, on fait du déficit commercial. Ça, c'est, disons, un premier élément important, je pense. Donc, deuxième élément, ça veut dire quoi dans un pays comme la France? Ça veut dire que 90% de la baisse des emplois dans l'industrie, dans le secteur manufacturier, est due au progrès technique. La hausse annuelle de la productivité du travail dans l'industrie, elle est un peu supérieure à 3% en France, si on prend la moyenne sur les 45 dernières années, 3,2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on a augmenté la productivité du travail dans l'industrie de pas loin de 40%. Et au bout de 45 ans, eh bien, au bout de 45 ans, on a multiplié la productivité par 4. Ça veut dire que pour fabriquer la même chose, il faut 4 fois moins de personnes. Depuis 1970, notre production industrielle en volume, hein, ce qu'on produit matériellement, ça a été multiplié par presque 9. Hein? Le nombre d'emplois pour fabriquer tout ça a, pour le coup, diminué. Et c'est essentiellement la hausse de la productivité qui explique ça. Donc, il y a une tentation, finalement, qui se matérialise autour du commerce, de vouloir freiner le progrès technique, freiner le temps. Le problème, c'est que, de même que freiner le progrès technique, ce n'est pas une politique viable à long terme, quand on essaie de pallier, disons, de parer à cette baisse des emplois industriels par la protection, ce qu'on constate, c'est que ça a très peu de résultats et ça coûte extrêmement cher. Il y avait une étude, par exemple, aux États-Unis qui avait été faite sur un épisode récent où les États-Unis avaient essayé de prendre des mesures dites de sauvegarde pour protéger une partie, en l'occurrence, c'était les pneus, vis-à-vis de la Chine. Et ça montrait que ça coûtait en moyenne 1 million de dollars de sauver un emploi par ce moyen.
Autre question ? Oui.
Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Kone Khalifa, étudiant MEAPE. Moi, j'ai une question. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur le rôle important que joue la Chine. Du coup, là, on assiste à de plus en plus de relocalisation de l'activité de certaines entreprises américaines. Et donc, vis-à-vis de cette relocalisation d'activité, j'aimerais savoir quel est l'impact, en fait, sur l'économie chinoise en elle-même.
Sébastien.
Alors, les délocalisations des entreprises américaines en Chine, je vais vous surprendre, mais elles sont relativement faibles. Elles sont beaucoup, beaucoup plus importantes au Mexique. Il y a relativement peu d'investissements directs étrangers américains en Chine. Qui c'est qui investit en Chine? C'est d'abord les Asiatiques, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais. Et ensuite, ce sont les Européens et les Américains derrière. Ensuite, si je comprends bien votre question, c'est ce que vous demandez, c'est dans quelle mesure est-ce que ça a aidé à la croissance de la Chine? Et là, il me semble assez clair que ça a joué un rôle très important, mais qui a été un ingrédient d'une politique économique qui a été aussi elle-même finalement bien articulée et bien mise en mouvement. Mais clairement, la Chine s'est notamment appuyée sur les investissements étrangers pour essayer de bénéficier de technologies occidentales. Mais il ne faut pas surestimer non plus les transferts de technologies directes. Souvent, l'intérêt que ça a eu pour le pouvoir chinois, c'est cette ouverture commerciale et cette ouverture aux investissements, ça a été d'une part de s'exposer à la concurrence et donc d'importer ce qu'on appelle souvent une discipline de marché, hein, Pour le dire autrement, et je pense que c'est important à garder en tête, y compris pour nous, dès lors qu'on se protège, on accroît la mainmise de l'État sur l'activité économique, il devient plus intéressant pour les entreprises d'essayer de gagner les faveurs de l'État plutôt que d'être plus efficace. Autrement dit, c'est souvent une porte ouverte à la corruption ou à l'affairisme un peu, ce qu'on voit par exemple de manière assez dramatique en ce moment au Brésil. Donc ça leur a servi d'abord à ça, hein, à s'exposer, disons, à la lumière et à une certaine à des prix de marché, à essayer de limiter, disons, les interférences, enfin l'affairisme dans une certaine mesure. Hein, je veux dire, il faut, étant bien entendu que ça reste un gros problème au niveau de l'économie chinoise, mais je pense que ça a eu cette vertu-là quand même. La deuxième, c'est que ça a permis d'entretenir un cercle vertueux, c'est-à-dire on arrive à bâtir des entreprises et des secteurs qui marchent, et puis eh bien en vendant dans le monde entier, ils peuvent se développer, hein, et donc accumuler des bénéfices qui sont réinvestis. Et puis, on a comme ça une boucle qui vraiment permet de, non seulement d'enclencher le développement, mais de le mener très loin.
Peut-être un petit focus, Sébastien, sur l'écart des salaires, parce que c'est un domaine sur lequel ça a beaucoup changé en 15 ans entre la Chine et un certain nombre de pays émergents et les États-Unis et un certain nombre de pays avancés. Et je trouve qu'on n'a pas toujours ça
en tête. C'est vrai, et ça change très vite, hein, parce que, pour vous dire, en gros, les salaires en Chine augmentent de plus de 10% par an, même s'il y a eu un peu, c'est sur ces deux dernières années, un coup de frein massif. On estime que à Shanghai, les salaires aujourd'hui sont deux fois plus élevés qu'ils n'étaient en 2010. Le salaire minimum à Shanghai aujourd'hui, il est de l'ordre de 300 euros par mois, c'est-à-dire aussi élevé qu'en Hongrie, deux fois plus élevé qu'en Bulgarie. Hein, je dis à Shanghai parce que le salaire minimum est par ville en Chine. Un ingénieur, d'après des responsables de multinationales, un ingénieur de bon niveau, en Chine, en ce moment, il faut le payer 50 000 euros par an. Le plafond, l'État chinois a essayé de limiter un peu, disons, certains abus dans les entreprises chinoises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux dirigeants des entreprises d'État, on vous interdit d'être payé plus d'un million de yuan par an. Un million de yuan, ça fait à peu près, disons, pour simplifier, 150 000 euros. Eh bien, ils trouvent toutes sortes de combinaisons pour détourner ça, parce que, en fait, souvent, ils gagnent nettement plus. Donc, voilà, je veux dire, le temps où la Chine, c'était l'Eldorado des bas salaires, est révolu pour toute la Chine côtière. Après, la Chine est grande, elle est diverse, voilà. Mais d'une façon générale, ça n'est plus ça, l'avenir de la Chine. Et je crois que c'est important à rappeler aussi, parce que dans les débats qu'on a, parce qu'évidemment, dans toute la situation actuelle, une grande partie de l'explication, c'est que la Chine fait peur. Économiquement, commercialement, la Chine fait peur. Elle fait peur en Europe, elle fait peur aux États-Unis et elle fait peur dans le monde entier. C'est un des secrets souvent inavoués des négociations commerciales et de leurs difficultés. C'est que dans le monde entier, la puissance commerciale chinoise fait peur. Mais il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire il ne faut pas se faire, disons, raisonner à propos de cette concurrence à partir des 20 dernières années où ils profitaient de leur avantage sur les bas salaires. La Chine de demain, c'est une Chine de très haute technologie qui investit massivement, qui essaie justement d'investir dans des pépites technologiques dans le monde entier et dont le plan de croissance est basé sur l'innovation et sur une production de diplômés qui est phénoménale. Voilà.
Autre question d'un étudiant ou d'une étudiante? Oui, derrière. Ah non, devant. Bon.
Bonsoir. Alors, j'ai une question. Alors, j'ai essayé de bien l'expliquer. Alors, voilà. Sachant l'impact écologique que le commerce international a, je m'interrogeais justement si on ne sous-estimait pas l'apport bénéfique du commerce international. C'est-à-dire qu'on connaît, du moins en L3 économie, on apprend les bases des bienfaits du commerce international. Mais en pratique, on a vraiment l'impression que l'impact écologique est très grand et que peut-être que dans vos modèles, il y a très peu de perdants et ce genre de choses. Mais justement, l'impact social au niveau global, on parle, souvent, on en a parlé à la COP21 et puis notre génération est pas mal, comment dire, concernés par ce genre de choses. Et sachant aussi, j'ai lu récemment qu'on estimait à 400 millions de déplacés climatiques, notamment pour revenir sur les questions de déplacement de population et M. Rago qui parlait d'immigration standard. Voilà.
Je crois qu'on a compris le sens de votre question. Vincent Zius.
Oui, je crois que c'est Lionel Rago qui disait qu'il fallait se méfier des idées de bon sens et que des fois, il fallait regarder les faits. Et c'est un exemple où il faut effectivement regarder les faits. La réalité, c'est pas parce qu'une marchandise vient de loin qu'elle est nécessairement plus intensive en carbone. Par exemple, si vous produisez, prenons de la viande de bœuf au Brésil, sur des surfaces qui sont, de la viande qui est élevée de manière extensive, à l'air libre, nourrie à l'herbe, c'est moins d'intensité carbone que dans nos économies où elles sont nourries avec des aliments qui eux-mêmes sont cultivés avec beaucoup de pesticides et d'engrais qui eux-mêmes sont très intensifs en émissions carbone. Donc la distance n'est pas un bon indicateur du contenu carbone des marchandises. Et par ailleurs, transporter des marchandises sur les quelques dernières centaines de kilomètres par camion émet beaucoup plus de carbone que les faire venir par bateau pour les faire traverser l'Atlantique. Donc c'est pas aussi simple que tout ce qui est importé est nécessairement plus intensif en carbone que ce qui est produit localement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, le transport international de marchandises, comme beaucoup d'autres domaines de l'économie, doit être décarboné. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on réalise tous, et je pense que vous l'avez bien à l'esprit dans votre question, c'est que d'ici 2050, si on veut maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés Celsius, d'ici 2050, il faut que la planète, à peu près, soit neutre en carbone, c'est-à-dire qu'on n'émette plus de carbone, pas plus que ce qu'on arriverait à capturer, et donc des émissions négatives. Ce qui veut dire des changements de production et de consommation absolument massifs d'ici 2050. Et en France, les sources de carbone, elles sont qui demeurent, sont essentiellement dans le logement, à peu près un tiers, essentiellement dans l'agriculture, parce que notre agriculture est très intensive comme en engrais, en pesticides, qui sont très intensifs en carbone. Et dans les transports terrestres, mais en France. Donc il faut là se garder peut-être des idées simples qui diraient pour lutter contre les émissions de carbone, on n'a qu'à limiter les importations. Non, il faut traiter la question du transport maritime, il faut traiter la question du transport aérien, et là-dessus les accords internationaux sont absolument fondamentaux. On n'avancera que collectivement au niveau de la planète, c'est ce qui le rend extrêmement difficile. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire en interne, le logement, je disais, le transport en France et l'agriculture, sur lesquels il faut absolument qu'on agisse de manière décisive.
Il y a même du travail à faire, hein, quand on sait que le kérosène n'est pas taxé, alors que l'essence l'est, quand on sait que les gros navires ont des moteurs qui sont extraordinairement polluants, il y a du boulot à faire. Bonne question, la question se pose. Il y a des éléments de réponse à venir, ça reste une vraie question. Sylvie, sur cette question de la mondialisation des marchandises, la rupture, il y a un micro qui arrive là.
Merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève pour qu'on puisse continuer le dialogue avec les étudiants. Je voulais faire 2-3 remarques. La première, c'est que la question sur les effets négatifs de la mondialisation, il faut oser l'affronter. Et il faut oser l'affronter, pas seulement avec des statistiques. Il est clair que pendant longtemps, les Occidentaux, les Européens, ont bénéficié d'une position dominante. Et ce qui s'est passé, c'est aussi un rééquilibrage. Il y a quand même des centaines de millions de gens qui sont sortis de la pauvreté. Sauf que pour les gens qui, chez nous, ont perdu un boulot, même s'ils sont très généreux, ça les console pas vraiment. Donc je crois que pour les politiques, c'est extrêmement important de ne pas regarder des moyennes, mais de regarder effectivement comment on peut répondre ici. Donc la question est vraiment extrêmement légitime. Même si ça a été très bien expliqué, il n'y a pas toujours de corrélation aussi directe que certains essayent de le faire croire. Moi, j'avais envie de vous passer un message, c'est que ce que j'observe, c'est un petit peu sur deux aspects européens de cette question. D'abord, vraiment vous inviter à ne pas regarder l'Europe comme beaucoup de gens le font, malheureusement, avec des yeux français. C'est-à-dire projeter sur toute l'Europe certaines difficultés de notre pays. Avec la même Union européenne, avec le même euro, vous avez des pays qui sont très ouverts avec un modèle social très protecteur, notamment dans le nord de l'Europe. Vous avez des économies qui sont au plein emploi, notamment dans une grande partie du territoire allemand, en Autriche, aux Pays-Bas, on est dans des taux d'emploi qui sont extrêmement élevés. On a des pays qui ont des excédents commerciaux énormes s'agissant de l'Allemagne, mais même en Italie, les Français ne se rendent pas compte que les performances commerciales de l'Italie sont infiniment meilleures que celles de la France. Par contre, vous avez des pays qui ont des déficits, etc. Donc, il faut bien voir une chose, c'est que ça n'est ni la mondialisation, ni l'appartenance à l'Union européenne qui explique tout, ni l'euro, d'ailleurs. Et donc, si on essaie de rentrer un peu plus finement, qu'est-ce qui véritablement protège les populations, donne du travail, etc. Pour ma part, je pense que c'est vraiment d'abord l'éducation, la formation. Dans les pays dans lesquels il y a du plein emploi des jeunes, sont les pays qui ont les systèmes de formation les plus sophistiqués. Par contre, dans les pays du sud de l'Europe où il y a moins de formation des jeunes, moins proche des entreprises, moins proche des besoins, on a des taux de chômage beaucoup plus grands. Donc, c'est très, très, il est très important de voir que il y a des réponses différentes à la mondialisation. Et quand vous armez votre population, par exemple, à se reconvertir parce qu'elle n'est pas illettrée, parce qu'elle est apte à se reformer quand c'est nécessaire, bah vous aurez des gens qui rebondissent beaucoup mieux. C'est toute la vertu de la flexisécurité dans des pays comme le Danemark. Ça a un coût. Ça a un coût en termes de protection sociale, mais ça évite de laisser les gens sur le bord de la route. L'autre élément européen, c'est que dans le domaine commercial, où, comme cela a été dit, un certain nombre de négociations sont tout à fait mondiales, où en plus les enjeux, et vous avez raison, votre génération, de vous préoccuper des questions de climat, parce que c'est vraiment un enjeu urgent et crucial pour nous tous, pas seulement pour votre génération. Dans toutes ces négociations-là, sincèrement, prenez le repli national, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Moi, je discute tout le temps avec des responsables européens qui sont en Chine, par exemple, la Chambre de commerce européenne en Chine, etc. C'est pas compliqué. Face aux Chinois, dont les gens ont peur, mais dont je crois qu'on a tort de les stigmatiser. Par exemple, l'évolution de la Chine sur l'environnement ces dernières années est un phénomène très positif. Donc ce qui se passe en Chine est massif, mais c'est pas forcément toujours négatif, il faut pas avoir peur. Mais quand je discute avec des gens de la Chambre de commerce européenne en Chine, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent c'est simple. Soit on va séparément devant les Chinois et ils joueront les divisions des Européens les uns contre les autres. Ils joueront l'Allemagne contre la France, jusqu'à présent le Royaume-Uni contre les continentaux, etc. Soit nous sommes vraiment capables de nous unir et dans ces cas-là, le marché intérieur de 500 millions de consommateurs solvables est un argument extrêmement fort. Parce que d'abord, c'est important pour les entreprises du monde entier en termes de débouchés. Deuxièmement, parce qu'ils savent très bien que nos normes, il faut qu'ils s'y adaptent pour pouvoir exporter chez nous. Donc ça nous donne aussi un levier normatif. C'est pour ça que je sais que si je dis ça, ça va déclencher une huée dans l'amphithéâtre. Mais personnellement, j'ai voté l'accord commercial avec le Canada et je l'assume. C'est un accord dans lequel vous avez une tentative, en tout cas, de favoriser des relations avec un pays qui respecte un certain nombre de normes. Pas exactement les mêmes que nous, c'est vrai. Mais quand on fait du commerce avec des autres, ils ne sont pas comme nous, figurez-vous. Ça, c'est un truc qu'on découvre assez vite. Donc, soit on ne fait plus de commerce du tout, soit on entre dans des discussions avec des gens. Et pour tout ça, je crois que c'est important que nous conservions les outils européens, quitte à les aiguiser plus. L'Europe, c'est une boîte à outils dont nous nous servons mal. Et par exemple, je vais prendre un exemple avec la Chine qui m'a été donné par un chef d'entreprise allemand. L'un des problèmes que nous avons dans le commerce mondial tel qu'il est, c'est une certaine forme d'asymétrie. Nous sommes extrêmement ouverts. D'autres ensembles sont beaucoup plus fermés, que ce soit les Américains en termes d'accès au marché public, que ce soit les Chinois, etc. Le vrai problème, c'est que vous avez une entreprise allemande, une pépite technologique, des gens qui ont inventé quelque chose. Et encore une fois, la meilleure protection dans la mondialisation, c'est l'excellence, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est l'éducation. Donc vous avez des gens qui ont fait le job. Leur entreprise vaut, je dis n'importe quoi, 100. Ce sera plutôt 100 millions ou plus, mais elle vaut 100. Parce que c'est une entreprise européenne et parce que c'est une entreprise européenne, elle n'a pas accès au marché chinois. Ce qui n'est pas correct, c'est que les Chinois l'achètent À partir du moment où ils l'ont acheté, sa valeur a augmenté considérablement, puisque comme c'est une entreprise chinoise, elle a accès au marché chinois. Voilà. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles nous devons nous battre beaucoup plus, et nous battre beaucoup plus en tant qu'Européens, pour que, quand des entreprises ont accès à notre marché, nous ayons accès également à leur marché dans des conditions qui sont loyales. C'est pareil pour les droits anti-dumping, c'est pareil pour la reconnaissance mutuelle des normes, des diplômes ou de l'accès au marché public. Je crois qu'il serait temps que nous donnions l'accès au marché public à tous les pays qui nous donnent l'accès à leur marché public, ce qui est par exemple l'une des choses qui est inscrite dans l'accord avec le Canada. Après, il y a des pays avec lesquels on peut réfléchir avant de faire des accords bilatéraux. Je crois qu'avec les États-Unis, c'est même plus à l'ordre du jour avec M. Trump, que de toute façon la négociation était mal partie et qu'il faut effectivement mettre beaucoup plus de transparence et d'information des populations dans les négociations multilatérales. Mais j'aimerais bien que parfois en France, ceux qui s'offusquent de que nous fassions des accords commerciaux s'offusquent aussi de la manière dont nous vendons des armes avec un manque de transparence totale. Et j'ai rarement eu autant de mails s'inquiétant de la prolifération de l'armement fabriqué chez nous par rapport au fait que nous ayons des indications géographiques protégées pour nos fromages dans un pays comme le Canada.
Dernière question des étudiants sur ce thème, là, au fond, cette fois-ci. Non, hop. C'est pas juste, sinon. Ceux qui sont derrière, on les entend pas.
Bonsoir, donc Naïla Boussaïd, étudiante en Master 2 économie de la santé à l'Université de Créteil. Donc, j'aimerais aborder avec vous la gestion du facteur travail, notamment d'origine étrangère. La clause Molière impose l'usage du français sur les chantiers de construction publique de certaines régions françaises, comme c'est le cas notamment en Île-de-France. Et dans une interview récente au journal Le Monde, Marianne Thyssen, la commissaire à l'emploi européenne, l'a qualifiée de discriminatoire. Comment peut-on faire pour se prémunir au mieux des dérives protectionnistes qui sont contraires au processus de mondialisation?
Alors on revient plutôt au premier temps de la discussion, Lionel ou Vincent? Lionel? Vincent.
Je crois que déjà pour se prémunir des dérives protectionnistes ou des réactions identitaires qui vont nuire à certaines parties de la population, à certaines personnes, je pense que la meilleure façon c'est de voter d'abord, de faire vos choix et de vous mobiliser effectivement pour plutôt des actions, des décisions des dirigeants politiques qui vont dans le sens de l'ouverture. Clairement, au niveau européen et de la mobilité, la question des travailleurs détachés, puisque c'est ça qui est derrière, il y a un système sur lequel il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer. Il ne faut pas non plus, jeter le bébé avec l'eau du bain. Les travailleurs détachés, c'est quelque chose qui est important pour l'ensemble de l'économie, y compris... Enfin, la France est également un pays dont les entreprises envoient des travailleurs détachés parce que pour certains travaux spécifiques, on a besoin de travailler avec des personnes qu'on connaît, spécialisées. Donc c'est quelque chose qui existe, dont il faut effectivement contrôler et combattre les dérives. Il y a des propositions en ce sens, notamment pour avoir des plateformes électroniques qui permettent de renseigner le fait que la personne est bien payée au salaire qui correspond à son niveau de formation, qu'elle est au nombre d'heures travaillées, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les travailleurs détachés en Europe, on est un petit peu dans l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur un document papier que la personne doit avoir avec elle. Les contrôleurs de l'inspection du travail doivent vérifier si la personne a un document papier. Si la personne ne peut pas le présenter, elles doivent se mettre en contact avec l'administration d'origine du pays. Tout ça se fait par échange de mails dans la langue du pays. C'est pour ça que le service en France qui s'occupe de ces contrôles a 30 personnes à plein temps pour simplement faire la traduction des documents. Donc je crois qu'aujourd'hui, à l'heure quand même des moyens modernes de communication, on pourrait avancer collectivement en Europe sans remettre en cause nécessairement le principe, mais au moins d'avoir de la transmission d'informations entre les administrations en charge de la bonne gestion pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus et que les entreprises ne profitent pas de quelque chose qui a sa justification pour faire de l'optimisation fiscale ou de l'optimisation de droits sociaux. Donc il y a des choses qu'on peut construire collectivement. Là encore, un petit peu comme dans le cas de Schengen, la réponse est plutôt plus d'Europe en quelque sorte, c'est-à-dire en fait des moyens mis en œuvre pour s'échanger les informations plus rapidement et une meilleure coopération entre administrations nationales, plutôt que de revenir à des systèmes qui existaient avant et qu'on a voulu changer parce qu'ils ne fonctionnaient pas.
Sylvie, Lionel, un mot.
Juste un mot, je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas non plus donner plus d'importance que ce qu'elle se vaut sur cette clause Molière. Je pense que c'est de la communication avant toute chose. On sait bien que ça sera très difficile de mettre en œuvre, d'aller vérifier et autres. Et ça ne relève pas d'une politique migratoire, cette question-là. Donc je comprends qu'on y soit sensible, mais c'est le but, c'est de communiquer autour de cette question-là. Et ça, c'est en termes de communication, ça répond aux perceptions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc ça satisfait un certain nombre de personnes.
Alors Sylvie m'a dit qu'elle voulait parler là-dessus et qu'en plus, elle allait faire la transition avec le troisième temps de cette discussion.
Je voulais vous inviter à regarder, mais c'est un petit peu ce qui vient d'être dit par Lionel. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé dans cette affaire de la clause Molière, c'est que les mêmes autorités qui veulent faire parler français sur les chantiers sont celles qui espèrent faire venir des financiers de la City de Londres à Paris par une campagne en anglais. Donc, je dirais que on est quand même dans une situation qui est à la limite du grotesque. Notre pays prétend se rendre attractif pour un secteur, la finance, qui est particulièrement internationalisé et dans lequel l'usage de l'anglais est systématique. Et dans le même temps, les titres des journaux sont sur la clause Molière. Et ça, c'est un truc qui est dangereux parce que, au-delà de la blague, si vous voulez être un territoire attractif, vous devez être cohérent et stable dans vos choix. Vous devez envoyer des signaux aux investisseurs et aux étrangers qui sont des signaux de stabilité.
Bon, donc ça, c'est comme si c'était fait. Troisième temps de cet échange sur la mondialisation.